Chapitre 8. Les cendres. 1. La panique est des plus contagieuses, en particulier dans les situations où l'on progresse dans l'inconnu. Ce fut la vision de Miguel, le vieux mozo, qui précipita Suzanne sur cette pente glissante. Planté au beau milieu de la cour d'entrée de Front de Mer, son balai de bruyère serré contre sa poitrine, il observait les cavaliers qui allaient et venaient avec une expression de perplexité misérable peinte sur le visage. Son sombrero était de guingois dans son dos, et Suzanne remarqua avec horreur que Miguel, d'habitude propre sur lui comme un sou neuf et tiré à quatre épingles, avait enfilé son poncho à l'envers. Ses joues ruisselaient de larmes, et tandis qu'il se tournait de ci de là pour suivre du regard les cavaliers, tâchant de saluer ceux qu'il reconnaissait, il évoqua à Suzanne un enfant qu'elle avait vu une fois trottiner devant une diligence qui arrivait à vive allure. Le père avait tiré à temps son rejeton en arrière. Mais qui donc irait à la rescousse de Miguel? Au moment où elle s'élançait vers lui, un vaquero monté sur un rouan pommelé, filant au galop, lui passa si près que l'un de ses étriers lui effleura la hanche et que le cheval lui fouetta l'avant-bras de sa queue. Elle poussa un étrange petit rire. Elle se faisait du souci pour Miguel, et c'était elle qui avait failli se faire renverser et piétiner. Comique. Cette fois, elle regarda dans les deux sens avant de se précipiter, et dut encore une fois se rejeter en arrière, car un chariot chargé tournait le coin à toute vitesse sur deux roues. Elle ne put voir en quoi consistait son chargement. Les marchandises étaient sous une bâche, mais aperçut Miguel avancer dans sa direction sans lâcher son balai. Suzanne repensa à l'enfant et à la diligence et poussa un cri étranglé pour le mettre en garde. Miguel battit en retraite au dernier moment, le chariot lui passa sous le nez, traversa la cour, rebondissant K1KA sur les pavés avant de s'engouffrer sous l'arche et de disparaître. Miguel lâcha son balai, se cacha le visage dans ses mains, tomba à genoux et, se répandant en lamentations sonores, se mit à prier. Suzanne le regarda faire un instant, bouche bée, puis courut vers les écuries sans plus se soucier de raser le bâtiment. Elle avait écopé de la maladie qui gagnerait tout Embry ou presque vers midi. Et même si elle se débrouilla pour sceller convenablement Pylône par ses propres moyens, tout autre jour pas moins de 3 palefreniers se seraient disputé l'honneur de venir en aide à la jolie Saï. Toute faculté de pensée l'avait abandonnée au moment où elle talonna son cheval effrayé pour lui faire franchir la porte de l'écurie. Quand elle passa devant Miguel, qui, toujours agenouillé, priait, les mains levées vers le ciel clair, elle ne le vit point davantage que les cavaliers qui l'avaient précédé. 2. Elle dévala la grand-rue au galop sans cesser de talonner les flancs de pylônes, si bien que le cheval parut bientôt voler. Idées, questions, possibles plans d'action, rien de tout cela n'avait droit de citer tandis qu'elle allait de l'avant. Elle n'était que vaguement consciente des gens qui fourmillaient dans la rue, poussant Pylône à se frayer un passage entre eux. Elle n'avait qu'une chose en tête, son nom à lui, Roland, 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 qui résonnait comme un cri. Tout était sans dessus-dessous. Le brave petit cathète qu'ils avaient formé cette nuit-là au cimetière était brisé. 3 de ses membres étaient sous les verrous avec une espérance de vie des plus réduites, à condition qu'ils fussent encore vivants. Quant à elle, 4e et dernier membre, elle était éperdue, en pleine confusion et folle de terreur, comme un oiseau entré par mégarde dans une grange. Si son état de panique avait persisté, les choses auraient pu tourner fort différemment. Quittant le centre, elle gagna l'autre extrémité de la ville et son chemin l'amena vers la maison qu'elle avait partagée avec son père et sa tante. Cette dernière avait longtemps guetté la cavalière qui approchait à présent. Suzanne était presque rendue quand la porte s'ouvrit à la volée et Cordelia, vêtue de noir de la tête aux pieds, dévala l'entrée du jardin jusqu'à la rue, poussant de hauts cris d'horreur entremêlés, semblait-il, d'éclats de rire. À sa vue, le voile de panique qui embrumait au premier plan l'esprit de Suzanne se déchira, mais pas parce qu'elle reconnut sa tante.
« Réa !»
s'écria-t-elle, tirant sur les rênes si violemment que le cheval dérapa, se cabra, faillit perdre l'équilibre et s'abattre. Ce qui aurait immanquablement mis un terme à l'existence de sa maîtresse. Mais Pylône, dressé sur ses postérieurs, battant le ciel de ses sabots avec de puissants hennissements, tint bon. Suzanne, un bras passé autour de son encolure, s'accrocha chèrement à la vie. Cordelia Delgado, revêtue de sa plus belle robe noire, la tête couverte d'une mantille, faisait face au cheval, comme si elle se trouvait dans son salon, ne tenant point compte des sabots qui fendaient l'air à moins de 20 pouces de son nez. Dans l'une de ses mains gantées, elle tenait une boîte en bois. Suzanne s'aperçut à retardement que ce n'était pas Réa qui lui barrait la route, mais son erreur était fort compréhensible. Si tante Corde était loin d'être aussi frêle que Réa, du moins pas encore, et était plus correctement vêtue, à l'exception de ses gants crasseux, pourquoi d'ailleurs sa tante en portait-elle, Suzanne l'ignorait, et encore plus par conséquent, pourquoi ils avaient l'air si sales. Le regard de folie qui couvait dans ses yeux entretenait une horrible similarité avec celui de la sorcière. « Bonjour à vous !» Mademoiselle Fraîche-et-Rose la salua tante Corde d'un timbre fêlé, mais plein de vivacité, qui fit frémir Suzanne jusqu'au tréfonds du cœur. Tante Corde lui tira sa révérence d'une main, tenant de l'autre le petit coffret niché contre son sein. « Où allez-vous ainsi, par ce si beau jour d'automne ? Où courez-vous si vite ? Pas dans les bras de vos amants, ça me semble chose assurée, car le premier est mort, et l'autre dans les fers. » Cordelia éclata de rire à nouveau, ses lèvres minces retroussées, découvrant ses grosses dents blanches, des dents de jument où peu s'en fallait. Ses yeux lançaient des éclairs dans la clarté solaire. « Elle a perdu l'esprit, » songea Suzanne, « pauvre vieille.
« C'est toi qui as poussé Dearborn à le faire ?»
demanda tante Corde. Elle se coula le long du flanc du pylône et leva des yeux lumineux et liquides vers Suzanne.
« C'est toi, hein ? Si fait ? Peut-être même que c'est toi qui lui as donné le couteau dont il s'est servi après te l'être passé entre les lèvres pour lui porter bonne chance. Vous êtes tous les deux dans le coup. Pourquoi ne point le reconnaître ? Admets au moins que tu as couché avec ce garçon, car je sais que c'est vrai. J'ai vu la façon dont il te regardait le jour où tu étais assise à la fenêtre et la façon dont tu lui as rendu son regard.
« Si vous tenez à savoir la vérité, je vais vous la dire, » fit Suzanne.
« Oui, nous sommes amants et nous serons mari et femme avant le terme de l'année. »
Cordelia salua de l'un de ses gonds souillés le bleu du ciel, comme si elle s'adressait au dieu qui s'y trouvait. Elle se mit à crier et à rire triomphalement.
« Et elle croit qu'ils vont s'épouser. Oh là là là! Et vous boirez sans doute le sang de vos victimes sur l'autel de l'Hyménée, n'est-ce pas? Oh, fille perdue! Que tu me feras pleurer !»
Mais au lieu de verser des larmes, elle éclata de rire de plus belle, poussant un hurlement de joie à la face aveugle et bleue du ciel.
« Nous n'avons projeté aucun meurtre, » dit Suzanne, traçant ne serait-ce que mentalement une ligne de démarcation entre les assassinats de la maison du maire et le piège dans lequel ils avaient espéré faire tomber les soldats de Farson. « Et il n'a assassiné personne, lui ?»« Non, ça c'est l'œuvre de votre ami Jonas, j'intuite. Ce sale boulot faisait partie de son plan. »
Cordelia plongea la main dans la boîte qu'elle tenait, et Suzanne comprit tout à coup pourquoi elle portait des gants aussi sales. Elle avait gratté à pleine main dans le poêle.
Par les cendres, sois maudite ! S'écria Cordelia,
projetant un nuage noir sur la jambe de sa nièce et sur sa main qui tenait les rênes de Pylône.
Soyez voués aux ténèbres tous les deux. Soyez donc heureux ensemble, perfides, assassins, grugeurs, menteurs, fornicateurs, apostats, damnés !
Cordelia Delgado accompagna chacune de ses imprécations d'une poignée de cendres. Et à chacune d'elles, Suzanne devenait de plus en plus lucide, de plus en plus froide. Elle fit front, laissant sa tante la bombarder à sa guise. Quand Pylône, sous la pluie de cendres qui lui criblait le flanc, tenta de s'en écarter, Suzanne l'en empêcha d'un coup de talon bien appliqué. Il y avait maintenant des spectateurs pour assister avidement à cet ancien rituel de reniement. Chimy, Yeux et Carquillé et Bouche Bée étaient du nombre. Mais à peine si Suzanne les remarqua. Redevenue maîtresse d'elle-même, elle savait à présent quoi faire, et rien que pour ça, elle supposait qu'elle devait une certaine reconnaissance à sa tante. « Je vous pardonne, ma tante, » dit-elle. La boîte de cendres presque vide échappa des mains de Cordelia, comme si Suzanne venait de la gifler.
« Quoi ? » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que tu dis ?»«
Pour ce que vous avez fait à mon père, votre frère, » continua Suzanne, « pour ce dans quoi vous avez trempé. » Elle frotta une de ses mains contre sa jambe et, se penchant, l'attendit dans sa direction. Avant même que sa tante ait pu reculer, Suzanne lui barbouilla la joue de cendre, la balafrant largement de noir. « Arborez cela tout de même, » dit-elle. « Vous pouvez le laver si ça vous amuse, mais je crois bien que, dans votre cœur, cette morsure-là aura beaucoup plus de mal à partir. » Elle marqua un temps. « Mais je pense qu'elle y est déjà. Au revoir. »«
Où crois-tu donc aller ?»
Tante Corde frotta sa joue marquée de suie de sa main gantée, mais quand elle se jeta en avant pour s'emparer des rênes de pylône, elle trébucha sur la boîte et manqua tomber. Ce fut Suzanne, toujours penchée du côté de sa tante, qui, la rattrapant par l'épaule, lui évita la chute. Cordelia se dégagea comme si elle fuyait le contact d'une vipère.
« Ne va point le retrouver ! Je t'interdis d'aller le rejoindre ! Grande niaise ! Espèce de folle !»
Suzanne fit tourner bride à sa monture. « Ce ne sont point vos oignons, ma tante. Tout est fini entre vous et moi, mais souvenez-vous bien de mes paroles. Nous serons mari et femme au terme de l'année. Nous avons déjà conçu notre premier-né.
Tu l'épouseras demain soir si tu t'approches de lui. Vous serez unis dans la fumée, mariés dans le feu, couchés dans la cendre. Couchés dans la cendre, tu m'entends ?»
La démente marcha sur elle, l'invective à la bouche, mais Suzanne n'avait plus le temps de l'écouter. Le jour fuyait à tire-d'aile. Elle aurait le temps de faire ce qu'elle devait accomplir, mais seulement si elle ne perdait plus un seul instant. « Au revoir !» répéta-t-elle avant de s'éloigner au galop. Mais les dernières paroles de sa tante la poursuivaient.
« Dans les cendres, tu m'entends ?»
3. Alors qu'elle sortait de la ville par la grande route, Suzanne, apercevant des cavaliers qui venaient dans sa direction, s'écarta de son chemin. Ce n'était pas le moment idéal, estima-t-elle, pour croiser on ne sait quel pèlerin. Il y avait tout près un ancien entrepôt de grains. Elle mena Pylône derrière lui et, lui flattant l'encolure, lui murmura de se tenir tranquille. Les cavaliers mirent plus longtemps à arriver à sa hauteur qu'elle ne s'y serait attendue. Et quand ils finirent par s'y trouver, elle comprit pourquoi. Réa se trouvait avec eux, assise dans une carriole noire ornée de symboles magiques. La sorcière était déjà passablement effrayante quand Suzanne était allée la voir la nuit de la lune des baisers, mais avait encore forme humaine. La créature que la jeune fille vit passer sous ses yeux, ballottée de ci de là dans la carriole, agrippant un sac sur ses genoux, était un être asexué, fardé d'ulcères, tenant plus du troll que de la femme. Les grands chasseurs du cercueil l'escortaient.
« Affront de mer !»
criait la chose dans la carriole.
« Hue de vent et plus vite que ça ! Je dormirai ce soir dans le lit de Sorine, et faudra beauvoir. J'y dormirai et j'y pisserai si l'envie m'en vient. Hue de vent, j'ai dit !»
De Pape, c'était à son cheval qu'on avait attelé la carriole, se retourna et la regarda avec un dégoût non dénué de crainte.
« Tiens ta langue !» lui dit-il.
Elle répondit à cette injonction par une crise de fou rire. Se tenant les côtes et sans lâcher la bourse sur ses genoux, elle menaça De Pape de l'ongle pointu de son index crochu. À sa vue, Suzanne, paralysée de terreur, sentit à nouveau la marée noire de la panique menacer de lui submerger allègrement l'entendement si elle n'y mettait point bon ordre. Elle lutta contre cette éventualité du mieux qu'elle put, arc-boutant son esprit, refusant qu'il se laisse aller comme il l'avait fait quelque temps plus tôt et comme il était tout prêt à le refaire si elle ne veillait point au grain. À l'image de cet oiseau écervelé pris au piège dans une grange qui se cogne contre les murs en ignorant superbement la fenêtre par laquelle il est entré. Même une fois la carriole passée et quand il ne resta plus rien d'eux que de la poussière en suspension, Suzanne entendit encore longtemps le rire caquetant et fou de Réa. 4. Elle arriva à la cabane de la mauvaise herbe à 1 heure de l'après-midi. Avant de mettre pied à terre, elle demeura un instant sur pylône à l'examiner. Était-il possible qu'elle et Roland se soient trouvés ici, il y a 24 heures à peine, à faire l'amour et des plans sur la comète? C'était difficile à croire, mais après qu'il fut descendu de sa monture et entré, le panier d'osier dans lequel elle avait apporté un repas froid lui en fournit la confirmation. Il était toujours posé sur la table branlante. Ce détail lui rappela qu'elle n'avait pas mangé depuis la veille au soir. Triste souper pris en compagnie de Harthorin, où elle n'avait que picoré, ne pouvant oublier qu'il la dévorait des yeux. Ah ! Ils s'étaient livrés à leur dernière empoignade, non ? Jamais plus elle n'arpenterait un couloir à fond de mer en se demandant de derrière quelle porte il allait surgir comme un diable hors de sa boîte, main baladeuse en avant et bite raide au vent.
Cendres, songea-t-elle. Des cendres, et encore des cendres. Mais point les nôtres, Roland, point les nôtres, mon amour, je te le jure.
Tendue, pleine d'effroi, elle tâcha de mettre en ordre ce qu'elle devait faire maintenant, d'établir une façon de procéder qui s'apparenterait à celle qu'on suivait pour seller un cheval. Mais elle avait 16 ans, et de sains appétits. Un seul coup d'œil sur le panier lui avait réveillé une faim de louve. En l'ouvrant, elle vit des fourmis courir sur les 2 encas au rosbif qui restaient, les balaya d'un revers de main et engloutit les sandwichs. Le pain avait un peu durci, mais elle le remarqua à peine. Il y avait aussi un demi-pichet de cidre doux et une part de cake. Quand elle eut fini le tout, elle alla dans le coin de la cabane déplacer le tas de peau qu'on avait commencé à saler avant de s'en désintéresser. Dans le creux qu'elle dissimulait, enveloppé de cuir souple, se trouvaient les revolvers de Roland. Si les choses tournent mal, tu devras venir ici les prendre et les remporter à l'ouest jusqu'à Gilead. Tu iras trouver mon père. Avec une légère mais authentique curiosité, Suzanne se demanda si Roland avait vraiment espéré qu'elle chevaucherait à bride abattue jusqu'à Gilead, grosse de son enfant à naître, tandis que lui et ses amis rôtiraient à grands cris et les mains rouges dans le feu de joie de la nuit de la moisson. Elle tira l'une des armes de son étui, elle tâtonna un instant ou deux avant d'ouvrir le revolver et de s'apercevoir que chaque alvéole du barillet était pleine. Remettant le cylindre en place d'un coup sec, elle vérifia l'autre arme. Après les avoir glissées dans la couverture roulée derrière sa selle, imitant Roland en cela, elle enfourcha pylône et reprit la direction de l'est. Mais pas vers la ville, pas tout de suite. Elle devait d'abord faire halte ailleurs. 5. Vers 2 heures de l'après-midi, le bruit courut par toute la ville que Franling Hill prendrait la parole dans la salle municipale. Nul n'aurait su dire où cette nouvelle, trop précise et assénée avec certitude pour qu'on la qualifie de rumeur, avait pris sa source. Et à vrai dire, nul ne s'en souciait beaucoup, se contentant de se passer le mot. À 3 heures, la salle municipale était bondée. Et 200 à 300 personnes restées à la porte prirent connaissance du bref discours de Lengel par chuchotement interposé. Coraline Thorin, qui avait commencé à faire circuler la nouvelle de l'intervention imminente de Lengel au repos des voyageurs, brillait par son absence. Elle savait ce que Lengel allait dire, s'étant en fait rangée à l'opinion de Jonas. L'allocution, la plus simple possible, devait aller droit au but. Il n'était point besoin de verser dans la démagogie ni de pousser à l'émeute. les habitants de la ville, au coucher du soleil, un jour de la moisson, ne seraient plus que populace. Or, la populace choisit ses meneurs et son choix est toujours le bon. Lengil parla, son chapeau à la main, et une amulette de la moisson en argent pendouillant du revers de son gilet. Il ne fignola point, fut bref et convaincant. La plupart des assistants, qui le connaissaient depuis toujours, ne mirent pas en doute un seul mot qu'il prononça. Dearborn, Heath et Stockworth avaient assassiné Art Thorin et Kimba Rimmer, avait appris Lengil à la foule où les hommes en jean côtoyaient les femmes en guingant d'étain. On pouvait leur imputer le crime en raison de certaines pièces à conviction, un crâne d'oiseau abandonné par eux dans le giron du maire Thorin. Des murmures saluèrent cette révélation. Nombre d'auditeurs de Lengil avaient vu ledit crâne accroché au pommeau de la selle de Cuthbert ou encore en sautoir autour de son cou. Et les mêmes avaient ri à ses espiègleries. Ils songeaient maintenant qu'ils avaient dû rire à leurs dépens, et cela depuis le début, et leurs mines s'allongèrent. L'arme qui avait tranché la gorge du chancelier, poursuivit Lengil, avait appartenu à Dearborn. Les trois jeunes hommes avaient été capturés le matin même alors qu'ils s'apprêtaient à s'enfuir de Mégis. Leur motivation n'était point des plus claires, mais ils semblaient en avoir après les chevaux. Si tel était le cas, il devait les destiner à John Farson qui avait la réputation de bien payer, et en liquide, les bons canassons. En d'autres termes, c'étaient des traîtres à leur terre et à la cause de la filiation. Lenghill avait posté Rufus, le fils de Brian Hookey, trois rangées plus loin. Alors exactement à l'instant prévu, Rufus Hookey s'écria « Ont-ils avoué ?»«
Si fait !» dit Lengil. Ils ont avoué les deux meurtres et s'en sont même montrés très fiers, pour sûr.
Le murmure général se fit plus fort, virant au grondement sourd. Il reflua comme une vague vers l'intérieur où il se relaya de bouche en bouche.
Très fiers, très fiers. Ils avaient commis leur crime au plus noir de la nuit et s'en étaient montrés très fiers.
On serra les lèvres et les poings.
Dearborn nous a dit que Jonas et ses amis avaient compris leur menée et prévenu Rimmer. Ils avaient tué le chancelier pour le faire taire tandis qu'ils achevaient leur tâche et Thorin au cas où Rimmer leur en aurait touché un mot.
Tout ça ne tenait pas debout, avait objecté Latigo. Jonas avait approuvé du chef en souriant.
Non, avait-il dit. Pas du tout debout, mais c'est sans importance.
Lenghill était prêt à répondre à d'éventuelles questions, mais on n'en posa aucune. Seul le murmure persista sur fond de cliquetis des amulettes et de bruit de pieds. Les regards étaient noirs. Les garçons étaient en prison. Lenghill ne fit aucune déclaration concernant le sort qu'on leur réservait, et une fois de plus, on ne lui posa aucune question. Il précisa que certaines des réjouissances prévues pour le lendemain, les jeux, les manèges, la course de dinde, l'épreuve de sculpture sur potiron, le combat de cochon, le concours de devinettes et le bal avaient été annulés eu égard à la tragédie. Les manifestations les plus importantes suivraient leur cours normal, comme toujours, comme cela se devait. Tenue des comices agricoles et remise de prix, saillie des juments, tonte des moutons, réunion concernant le cheptel et vente à la criée des chevaux, cochons, vaches et moutons. Sans oublier le feu de joie, au lever de la lune. Le feu de joie où flamberaient les pantins de chiffon.
Chariotry marquait la fin de la fête de la moisson depuis la nuit des temps. Et rien n'y mettrait un terme, si ce n'est la fin du monde.
On allumera le feu de joie et on y brûlera les pantins. Eldred Jonas avait dûment chapitré Lenghill. Tu t'en tiendras là. Tu n'auras pas besoin d'en dire plus.
Et il avait eu raison. Lenghill le lut sur chaque visage. La détermination à agir comme il le fallait s'y doublait d'une sorte d'impatience malsaine. Les pantins aux mains rouges étaient l'une des survivances des coutumes d'antan, des anciens rites, los ceremoniosos, chariutri. Cela faisait des générations qu'on ne les pratiquait plus, sauf de loin en loin dans des endroits secrets, là-bas, dans les collines. Mais parfois, quand le monde changeait, ils retrouvaient leur place d'origine.
« Sois bref !»
lui avait intimé Jonas. Et le conseil était bon. Très, très bon. En des temps moins troublés, Leng Hill n'aurait guère apprécié la présence d'un individu tel qu'Eldred Jonas dans les parages, mais elle se révélait fort utile dans les circonstances actuelles. « Les dieux vous donnent la paix » conclut-il, se reculant légèrement, les bras croisés aux épaules, pour signifier qu'il avait terminé.
« Les dieux nous donnent la paix à tous !»«
Long jour et paisible nuit !» rétorqua l'assistant sans cœur par automatisme à voix basse. Là-dessus, ils s'en allèrent simplement avant de rejoindre les lieux qu'on fréquentait l'après-midi précédant la moisson. Nombre d'entre eux, Leng Hill le savait, gagneraient le repos des voyageurs ou l'hôtel Bellevue. Il s'épongea le front de la main. Il détestait devoir affronter la foule, et aujourd'hui, cela avait battu tous les records. Mais il jugea que tout s'était bien passé. Fort bien même. 6. La foule s'écoula à l'extérieur sans mot dire. La plupart des gens, comme l'avait prévu Leng Hill, dirigèrent leurs pas vers les saloons. Chemin faisant, ils passèrent devant la prison. Mais ils furent peu à lui accorder un regard, et ceux qui le firent se limitèrent à quelques coups d'œil furtifs. Le porche était désert, on n'y voyait qu'un pantin aux mains rouges replet étalé sur le rocking chair du shérif Avery, et la porte entr'ouverte comme elle l'était les après-midi chauds et ensoleillés. Les garçons se trouvaient à l'intérieur, nul doute n'était permis, mais aucun signe particulier n'indiquait qu'on les gardait avec un excès de zèle. Si, au passage, les hommes qui descendaient en direction du repos et du Bellevue s'étaient regroupés en bande, ils auraient pu s'emparer de Roland et de ses amis sans coup férir. Au lieu de cela, ils poursuivirent leur chemin d'un pas flegmatique, sans lever les yeux ni échanger un mot pour se rendre là où des vers les attendaient. Ce n'était ni le jour ni le soir. Demain, en revanche. 7. Pas très loin du bar K, Suzanne aperçut, sur le vaste pâturage en pente de la baronnie, un spectacle qui la fit tirer sur les rênes et rester là, à califourchon sur sa selle, à regarder bouche bée. Au-dessous d'elle, et un peu plus à l'est d'où elle se tenait, à savoir à presque 3 lieues de là, un groupe d'une dizaine de cow-boys avait rassemblé la plus grosse troupe de coursiers de l'aplomb qu'elle eût jamais vue. 400 chevaux en tout, peut-être. Ils galopaient paresseusement, se laissant orienter par les vaqueros sans rechigner. Probablement qu'ils croient qu'on les rentre pour l'hiver, songea Suzanne. Mais on ne les dirigeait point vers les ranchs disséminés le long de la crête de l'aplomb. Les coursiers, si nombreux qu'en se déplaçant ils faisaient comme l'ombre d'un nuage sur l'herbe, étaient poussés vers l'ouest, vers la roche suspendue. Suzanne avait cru Roland en tout point, mais cela venait de lui confirmer sur un plan plus personnel, car il pouvait le relier directement à la mort de son père. Des chevaux qui se coursent. « Espèce de salopard !» murmura-t-elle. « Salopard de voleur de chevaux !» Elle fit tourner bride à pylône et galopa vers le ranch incendié. À sa droite, son ombre s'allongeait. Là-haut, dans le ciel diurne, la lune du démon jetait une faible lueur fantomatique. 8. Elle avait un peu redouté que Jonas ait laissé des hommes au barca. Même si elle ne voyait pas bien pour quelle raison il l'aurait fait. Mais ses craintes se révélèrent infondées. Le ranch était désert, comme il l'avait été durant les 5-6 années séparant l'incendie qu'il avait anéanti de la venue des garçons du monde de l'intérieur. Elle vit des traces de l'affrontement du matin même, et en entrant dans le baraquement où les 3 amis avaient dormi, aperçut aussitôt le trou béant dans le plancher. Jonas avait négligé de remettre l'alarme en place après avoir fait main basse sur les armes d'Alain et de Cuthbert. Elle se faufila entre les couchettes et, mettant un genou à terre, regarda le trou. Rien. Elle doutait cependant que ce qu'elle était venue chercher s'y soit jamais trouvé. Le trou n'était point assez grand. Prenant son temps, elle observa les 3 couchettes. Laquelle était celle de Roland ? Elle supposa que le deviner serait pour elle un jeu d'enfant. Elle n'avait qu'à laisser parler son nez, connaissant l'odeur des cheveux et de la peau de son amant comme elle la connaissait. Mais se dit qu'elle aurait meilleur temps de ne pas céder à ce genre de tendre impulsion. L'heure lui commandait d'être rapide et endurcie, d'aller de l'avant sans répit ni regard en arrière. « Descendre !» lui soufflait tant de cordes à l'oreille, chuchotis quasi imperceptible. Suzanne secoua la tête avec impatience comme pour chasser cette voix importune et ressortit. Elle ne trouva rien derrière le baraquement, rien derrière les cabinets, ni d'aucun côté. Contournant l'ancienne cambuse, elle finit par découvrir ce qu'elle était venue chercher, posée là comme par hasard et sans effort pour les dissimuler davantage, les deux petits tonneaux qu'elle avait vus sur l'échine de Capriccioso la dernière fois. Pensée au mulet, fit naître l'image de Chimie, la dominant de sa taille d'homme, mais la fixant avec une expression de gamin plein d'espoir.
« J'aimerais que vous me donniez un baiser de fin de agno. Si fait ?»
Chimie, dont Messire Arthur Heath avait sauvé la vie, Chimie, qui, bravant la colère de la sorcière, avait donné à Cuthbert le billet que cette dernière destinait à sa tante, Chimie, qui avait apporté ses tonneaux jusqu'ici. Pour les camoufler, on les avait en partie enduits de suie et Suzanne s'en mit plein les mains et les manches de sa chemise en enlevant leur couvercle. Nouvelle cendre. Les pétards se trouvaient toujours à l'intérieur. Les Big Banger, ronds et gros comme le poing, et les plus petits, dits « doigts de dame ». Elle se servit largement des deux en bourrant ses poches à craquer et en portant d'autres à plein bras. Elle remplit les sacoches de sa selle, puis leva les yeux vers le ciel. 3h30. Elle ne tenait pas à être de retour à Ambry avant le crépuscule, ce qui lui laissait encore 1 heure de temps. Elle aurait le loisir de s'attendrir un peu, après tout. À l'intérieur du baraquement, Suzanne découvrit sans peine la couche de Roland. Elle s'agenouilla devant comme une enfant qui fait sa prière du soir, posa sa tête contre l'oreiller et inhala profondément. « Roland, » fit-elle d'une voix étouffée. « Comme je t'aime. Comme je t'aime, mon amour. » Elle s'étendit sur ce lit qui avait été le sien et, se tournant vers la fenêtre, regarda la lumière décliner. À un moment, elle leva ses mains à hauteur de ses yeux pour examiner les traces de suie qui avaient laissé les fûts. Elle songea à aller se les laver à la pompe, devant la cambuse, puis décida que non, qu'elle reste ainsi. Ils formaient un quatette, un seul en plusieurs, fort de leur but et fort de leur amour. Que les cendres restent, effacent de leur pire. 9.
« Ma Suzy a ses petits défauts, mais elle est jamais en retard, » disait Pat Delgado.
Ce fut encore vrai le soir, juste avant la moisson. Évitant sa maison, elle gagna sur Pylône le repos des voyageurs 10 minutes à peine après que le soleil eut enfin sombré derrière les collines, peuplant la grand-rue d'épaisses ombres mauves. La rue était étrangement déserte pour une veille de la moisson. L'orchestre, qui jouait au cœur vert tous les soirs depuis une semaine, s'était tu. On entendait crépiter des pétards par intervalles, mais ni rire ni cris d'enfants, de rares lampions colorés étaient allumés. Des pantins semblaient à l'affût sur chaque véranda noyée d'ombre. Suzanne frissonna en distinguant le blanc de leurs yeux au point de croix. Ce qui était en train au repos reflétait la même étrangeté. Les barres d'attache étaient bondées. On avait même dû attacher des chevaux à la balustrade du magasin général de l'autre côté de la rue. Et si de la lumière brillait à chaque fenêtre, tant de fenêtres et tant de lumière que l'auberge prenait des airs de grands vaisseaux voguant sur une mer de ténèbres, le vacarme et la liesse habituelle, en accord avec les airs de Jack Time qui égrenaient le piano de Cheb, faisaient cruellement défaut. Suzanne ne s'imagina que trop bien à quoi s'occupaient les clients à l'intérieur, une centaine d'hommes, peut-être plus, qui se contentaient de boire. Mais aucun n'échangeait une parole, n'éclatait de rire, ne lançait les dés sur le tapis de l'allée de Satan, en saluant les résultats d'une plainte ou d'un cri de joie. Nul popotin caressé ou pincé, nul baiser de la moisson volée, nulle querelle entamée verbalement et s'achevant physiquement en pugilat. Rien que des buveurs, à 300 mètres à peine de la prison, où son amour et ses amis étaient enfermés. Les hommes qui se trouvaient au repos se contenteraient de boire ce soir, cependant. Et avec un peu de chance et de courage, elle... Au moment où, d'un mot chuchoté, elle immobilisait Pylône devant le saloon, une silhouette se détacha d'entre les ombres. Elle se raidit, mais les premiers rayons orangés de la lune qui se levait révélèrent le visage de Chimy. Elle se détendit aussitôt, se moquant un peu d'elle-même. Il faisait partie de leur quatette, elle le savait. Quoi de surprenant à ce qu'il soit lui aussi au courant ?
« Suzanne !»
murmura-t-il, retirant sa sombrera qu'il tint contre sa poitrine.
« J'ai attendu après vous.
Pourquoi » « Pourquoi ? » demanda-t-elle.
« Parce que je savais que vous alliez venir. »
Il jeta un coup d'œil derrière lui vers le repos et sa masse noire répandant follement ses lumières aux quatre points cardinaux.
« On va libérer Arthur et les autres, pas vrai ?»«
Si fait, j'espère, » dit-elle.
« Il faut. Les gens là-dedans, ils parlent point, mais ils ont point besoin. Je sais, Suzanne, fille de Pat. Moi, je sais. »
Elle supposa que oui. Coraline est à l'intérieur. Chimy fit non de la tête.
Elle s'est rendue à la maison du maire. Elle a dit à Stanley qu'elle allait aider à la toilette des corps pour l'enterrement d'après-demain. Mais moi, je crois point qu'elle soit allée là-bas pour ça. Je crois que les grands chasseurs du cercueil, ils vont s'en aller et qu'elle s'en va avec eux.
Levant la main, il essuya ses yeux humides. Ton mulet, Chimy ?
Je l'ai scellé et je lui ai mis le long licou.
Elle le regarda bouche bée. Comment savais-tu ?
Pareil que je savais que vous veniez, Suzanne Sy. Je savais, c'est tout.
Il haussa les épaules et eut un geste vague de la main.
Capi est là-bas derrière, je l'ai attaché à la pompe des cuisines.
Tu as bien fait. Elle fouilla dans la sacoche où elle avait stocké les plus petits pétards. Tiens, prends-en quelques-uns. T'as une soufrée ou deux ?
Si fait.
Il ne posa pas de questions, fourra simplement les pétards dans sa poche. Elle, cependant, qui n'avait jamais franchi les portes battantes du repos des voyageurs, avait une autre question pour lui. Que font-ils de leurs manteaux, de leurs chapeaux et de leurs ponchos quand ils entrent, Chimy ? Ils doivent bien les ôter. Boire, ça donne chaud.
Oh, si fait, il les pose sur une longue table juste à côté de la porte. Il y en a qui se battent pour savoir quoi et à qui avant de rentrer chez eux.
Elle opina, réfléchissant vite. Il restait devant elle, la sombrera contre la poitrine, la laissant se charger de ce que lui ne pouvait faire, du moins au sens conventionnel du terme. Elle releva enfin la tête.
Chimy, si tu m'aides, tu seras interdit de séjour à Ambry, interdit de séjour à Mégis, interdit de séjour dans l'arc extérieur. Tu nous suivras dans notre fuite. Tu comprends ça ?
Elle vit qu'il comprenait. Son visage rayonnait à cette idée.
Si fait, Suzanne, je m'en irai avec vous et Will Dearborn, Richard Stockworth et Monsieur Arthur Heath, mon meilleur ami. J'irai dans le monde de l'intérieur voir ses bâtisses, ses statues et ses femmes vêtues comme des princesses de contes de fées.
Si nous sommes pris, on nous tuera. Il cessa de sourire, mais ses yeux ne sillèrent point.
Si fait, on sera tué si on nous prend, probable.
Tu veux toujours m'aider ?
Capi est scellé,
répéta-t-il. Suzanne jugea que c'était là une réponse suffisante. Elle lui prit la main qui pressait la sombrera contre sa poitrine. Le fond en était tout écrasé, et ça ne datait pas d'hier. Elle se pencha sur sa selle, tenant les doigts de Chimy d'une main et le pommeau de l'autre, et lui baisa la joue. Il fit un sourire. « On va faire de notre mieux, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-elle.
« Si fait, Susan, fille de Pat, on fera notre mieux pour nos amis, du mieux, notre mieux. »
« Assurément. Et maintenant, écoute-moi, Chimie. Écoute-moi attentivement. » Elle se mit à parler. Chimie était tout ouïe. 10. 20 minutes plus tard, alors que la lune, boursouflure orange, s'élevait en peinant au-dessus des bâtiments de la ville comme une femme enceinte grimpant une côte des plus raides, un vaquero solitaire menait un mulet le long de Hill Street en direction du bureau du shérif. Cette partie de la rue était un puits ombreux. Un peu de lumière filtrait du cœur vert et de ses alentours. Mais même le parc, qui toute autre année aurait été envahi par la foule et brillamment éclairé, était en grande partie désert. Presque toutes les baraques étaient fermées, et parmi les rares restées ouvertes, seule celle de la diseuse de Bonaventure était fréquentée. Ce soir-là, toutes les prédictions étaient mauvaises, mais on s'y pressait quand même. N'était-ce pas toujours le cas, d'ailleurs ? Le vaquero était enveloppé d'un épais poncho qui dissimulait sa poitrine féminine. Ce cow-boy était coiffé d'un grand sombrero taché de sueur qui dissimulait également les traits féminins de son visage. La personne masquée par le large rebord du chapeau fredonnait à voix basse « Amour insouciant ». La petite selle du mulet était ensevelie sous un gros baluchon qu'on y avait encordé. Bâche ou harde le composait peut-être, mais l'ombre s'épaississant, il était impossible de trancher avec certitude. Détail amusant, autour du cou de l'animal, telle une bizarre amulette de la moisson, pendouillaient deux sombreros et un couvre-chef de meneur de chevaux relié par une cordelette. À l'approche du bureau du shérif, la chanson cessa. L'endroit aurait pu passer pour désert, n'eût été la loupiote qui brillait à l'une des fenêtres. Sur le rocking chair de la véranda, un pantin arborait ironiquement l'un des gilets brodés d'Erk Avery et une étoile de shérif. Aucun garde à l'horizon, absolument rien ne signalait que les trois individus les plus honnis de Mégis se trouvaient séquestrés là. Puis, très faiblement, le vaquero perçut les accords d'une guitare qu'on grattait. Un crépitement de pétard les noya. Le vaquero regarda derrière lui et distingua une silhouette qui lui fit signe. Le vaquero opina et agita la main en réponse, puis attacha le mulet à la barre des chevaux, la même où Roland et ses amis avaient attaché les leurs quand ils étaient venus se présenter au shérif par un beau jour d'été, déjà si lointain. 11. La porte, que personne ne s'était donné la peine de verrouiller, s'ouvrit. Dave Hollis s'escrimait pour la énième fois à jouer le pont de Captain Mills et You Bastard. En face de lui, le shérif Avery se tenait vautré dans le fauteuil de son bureau, les doigts entrecroisés sur sa panse. La lueur orangée vacillante d'une lampe éclairait la pièce.
« Continuez comme ça, adjoint Dave.
Et vous n'aurez pas besoin de nous exécuter,
dit Cuthbert Allgood. Il s'accrochait au barreau de l'une des cellules.
« On se suicidera pour ne plus se faire écorcher les oreilles. »« Ferme-la, vermine !» lui intima le shérif Avery.
Il somnolait à moitié après avoir dîné de 4 côtelettes, s'imaginant d'avance en train de retracer les événements de ce jour héroïque à son frère et à sa belle-sœur, jolie comme un cœur, qui habitait la baronnie voisine. Il ferait preuve de modestie tout en leur faisant clairement comprendre le rôle essentiel qu'il avait joué, que, sans son intervention, ces trois jeunes ladrones auraient pu « Surtout, ne chantez pas !» disait Cuthbert à Dave. « Je suis prêt à avouer que j'ai assassiné Arthur Lenné en personne si vous ne chantez pas !»
Alain était assis en tailleur sur sa couchette, à la gauche de Bert. Roland, étendu sur la sienne, les mains nouées derrière la tête, regardait au plafond. Mais à peine entendit-il le déclic du loquet de la porte qu'il adopta la position assise, comme s'il n'avait attendu que ça.
« Ça doit être Bridger !» fit l'adjoint Dave.
point mécontent de poser sa guitare. Il détestait cette corvée et il lui tardait d'en être soulagé. Le pire, c'était bien les plaisanteries d'Is. Le fait qu'il puisse continuer à plaisanter malgré ce qui les attendait le lendemain. « Je crois plutôt que c'est l'un d'eux, » objecta le shérif Avery, avec les grands chasseurs du cercueil en tête. En fait, c'était ni l'un ni l'autre. Mais un cow-boy enfoui dans un poncho qui semblait trop grand pour lui, les pans entraînèrent sur le plancher quand il entra d'un pas lourd et referma la porte derrière lui, et coiffé d'un chapeau qui lui mangeait le visage. Aux yeux d'Erk Avery, le bonhomme avait tout l'air d'un pantin déguisé en cow-boy. « Voilà, étranger !» fit-il souriant d'avance. Car c'était sûrement une blague, et Erk Avery appréciait les blagues comme tout un chacun. En particulier, après 4 côtelettes et des montagnes de purée. « Salut à toi !»« Tu cherches quoi, exact ?» La main qui était restée dissimulée sous le poncho pendant la fermeture de la porte en surgit. Elle braquait maladroitement une arme que les 3 prisonniers reconnurent immédiatement. Le sourire d'Avery s'effaça lentement en l'apercevant. Il décroisa les doigts. Ses pieds posés sur le bureau retrouvèrent le plancher des vaches. « Tout doux, collègue, » fit-il lentement. « On va creuser un peu tous les deux.
Prenez les clés sur le mur et ouvrez les cellules. »
dit le vaquero d'un ton rauque, contrefaisant une grosse voix. À l'extérieur, personne ne remarqua la chose sauf Roland. D'autres pétards éclatèrent à la chaîne, emplissant la nuit de leur crépitement sec.
« Sûrement pas !»
dit Avery, ouvrant du pied le tiroir du bas de son bureau. Plusieurs pistolets s'y trouvaient suite à l'expédition du matin.
« Bon, je sais pas si ce truc est chargé, mais j'ai du mal à croire qu'un pistard comme toi,
le nouveau venu visa le bureau et appuya sur la détente. » La détonation fut assourdissante dans la petite pièce. Mais Roland songea, espéra, que la porte fermée, on pourrait la confondre avec un simple pétard. Un peu plus fort que certains, mais bien moins que d'autres.
« Brava, se dit-il. Oh !» « Quelle brave fille tu fais! Mais prudence, au nom des dieux, sois prudente !»
Les 3 amis, lèvres serrées, ouvrant l'œil et le bon, s'étaient mis droit fil derrière les barreaux. La balle alla frapper l'angle du bureau à cylindre du shérif, faisant voler un énorme éclat de bois. Avery poussa un cri, se renversa dans son fauteuil et s'affala les 4 fers en l'air. Son pied coincé sous le tiroir tiré le renversa dans le mouvement et 3 antiques pétoirs s'éparpillèrent sur le plancher.
« Attention, Suzanne !» cria Cuthbert, puis « Dave, non !»
Parvenu au terme de son existence, ce fut le sens du devoir et non la crainte des grands chasseurs du cercueil qui anima Dave Hollis. Dave, qui avait espéré succéder à Avery au poste de shérif de Mégis quand ce dernier prendrait sa retraite. Se vantant parfois auprès de sa femme, Judy, qu'il en ferait un bien meilleur que Grolard avait même pas rêvé d'être. Il oublia qu'il entretenait de sérieux doutes sur la façon dont on avait capturé les 3 garçons et sur ce qu'ils pouvaient avoir fait ou pas. Il ne songea alors qu'à une seule chose, qu'ils étaient des prisonniers de la baronnie et à ce titre ne s'évaderaient point s'ils pouvaient les en empêcher. Il se précipita sur le cow-boy aux habits trop grands, dans la ferme intention de lui arracher son arme, et de le descendre avec, si nécessaire. 12. Suzanne, oublieuse de tout le reste, contemplait avec effarement l'estafilade taillée de frais dans le bois du bureau du shérif. Tant de dégâts causés par la flexion d'un doigt. Le cri de désespoir de Cuthbert lui fit prendre conscience de sa mauvaise posture. Se plaquant contre le mur, elle évita la main de Dave sur le point d'agripper le poncho démesuré, et sans réfléchir davantage, elle pressa à nouveau sur la détente. Il y eut encore une fois une violente déflagration, et Dave Hollis, jeune homme de 2 ans à peine plus âgé qu'elle, fut projeté en arrière. Un trou fumait entre 2 pointes de l'étoile qu'il portait sur sa chemise. Il écarquillait des yeux incrédules. Son monocle pendouillait au bout de son cordon de soie noire, près de l'une de ses mains tendues en avant.
Il heurta sa guitare du pied et l'envoya valdinguer par terre, ce qui lui tira des accords presque plus mélodieux que ceux qu'il avait tenté de produire précédemment.
« Dave !» murmura-t-elle. « Oh, pardon, Dave ! Qu'ai-je fait ?»
Dave fit une tentative pour se relever, puis s'affala, tête la première. Le trou qu'il avait dans le dos et que Suzanne contemplait maintenant était énorme et hideux d'aspect, rouge et noir, dans les déchiquetures carbonisées de la chemise, comme si elle l'avait transpercé d'un tisonnier chauffé à blanc au lieu de lui tirer dessus avec une arme à feu, censée être miséricordieuse et civilisée, et qui n'était manifestement ni l'une ni l'autre.
« Dave !» murmura-t-elle.
« Dave, je... »« Attention, Suzanne !»
cria Roland. C'était Avery. Déboulant à quatre pattes, il la saisit aux chevilles et la déséquilibra en tirant. Elle tomba sur les fesses dans un violent claquement de dents et se retrouva face à face avec lui, son visage aux pores dilatés, ses yeux de batracien et le gouffre empestant l'ail de sa bouche.
« Mais Dieu,
vous êtes une fille !»
fucheta-t-il en tendant la main vers elle. Elle pressa une nouvelle fois la détente du revolver de Roland, mettant le feu au devant de son poncho et creusant un trou dans le plafond. Il se mit à pleuvoir du plâtre pulvérisé. Avery lui serra le cou de ses mains grosses comme des jambons, lui coupant le souffle. Quelque part, très loin de là, Roland hurlait son nom. Elle avait encore une chance. Peut-être.
« Une suffit, Sue, lui dit la voix de son père résonnant dans sa tête. « Une seule te suffit, ma chérie. »
Elle arma le revolver de Roland du pouce, fourra le canon dans les replis flasques du cou du shérif Irk Avery et appuya sur la détente. L'ampleur des dégâts fut considérable. 13. La tête d'Avery tomba dans son giron, aussi lourde et dégoûtante qu'un quartier de viande fraîche. Au-dessus, elle sentit croître une sensation de chaleur. Au bord extrême de son champ de vision vacillait une flamme jaune.
« Sur le bureau !»
cria Roland, secouant la porte de sa cellule si violemment qu'elle en branla dans son encadrement.
« La cruche, Suzanne, pour l'amour de ton père !»
Elle fit rouler la tête d'Avery loin de ses genoux, se releva et s'avança en titubant vers le bureau, son poncho en train de se consumer. Elle sentait l'odeur de brûlé, et dans un recoin de son esprit, se félicitait d'avoir pris le temps, en attendant le crépuscule, de nouer ses cheveux dans le dos. La cruche était presque pleine, mais pas d'eau. Elle renifla l'odeur piquante du graphe. Elle s'en aspergea néanmoins, et l'alcool de pomme éteignit les flammes en un vif sifflement. Elle se débarrassa du poncho et du trop grand sombrero par la même occasion, et jeta le tout sur le sol. Elle regarda Dave à nouveau, un garçon avec lequel elle avait grandi, qu'elle avait peut-être même embrassé derrière la porte de l'écurie de Hookie. Il y avait de cela une éternité.
« Suzanne !»
la rappela alors de la voix de Roland.
« Les clés, vite !»
Suzanne s'empara du trousseau accroché à un clou sur le mur. S'approchant de la cellule de Roland, elle lança au jugé les clés à travers les barreaux. L'atmosphère était empuantie par la fumée des coups de feu, l'odeur de laine brûlée et du sang. Chacune de ces inspirations se traduisait pour Suzanne par un haut-le-cœur involontaire. Roland dénicha la bonne clé, la faufila à travers les barreaux et l'introduisit dans le verrou. Un instant plus tard, il était dehors et l'enlaçait violemment tandis qu'elle éclatait en sanglots. Un autre instant plus tard, Cuthbert et Alain étaient eux aussi délivrés.
« Tu es un ange !»
s'exclamait Alain, la serrant à son tour dans ses bras.
« Non !» fit-elle, et ses pleurs redoublèrent.
Elle jeta l'arme à Roland. Elle avait l'impression qu'elle lui salissait les mains. Elle ne voulait plus jamais en tenir une de sa vie.
« Lui et moi, on jouait ensemble quand on était à peine sortis de l'œuf. » Gentil, il était. Il m'a jamais tiré les nattes ni embêté. Et gentil, il est resté, en grandissant. Et maintenant, je lui ai ôté la vie. Qui va le dire à sa femme ?
Roland la reprit dans ses bras et la garda serrée contre lui un moment.
Tu as fait ce que tu devais faire. C'était lui ou nous.
Tu ne le sais pas ? Elle acquiesça, la tête nichée contre sa poitrine.
Avery, ça me fait point le même effet, mais... Dave...
Dépêchons, dit Roland. Quelqu'un a pu entendre les coups de feu et ne pas les confondre avec autre chose. C'est Chimie qui a fait partir les pétards ?
Elle fit un signe affirmatif.
Je vous ai apporté des vêtements, des chapeaux et des ponchos.
Suzanne se précipita vers la porte, l'ouvrit, jeta un coup d'œil à l'extérieur dans les deux sens, puis se coula dans l'obscurité qui gagnait de plus en plus. Cuthbert recouvrit le visage de l'adjoint Dave du poncho carbonisé.
« Malchance, collègue, dit-il. T'as été pris entre deux feux, hein. Tu devais pas être un si mauvais bougre. »
Suzanne rentra, croulant sous le harnachement volé qu'on avait fixé à la selle de Capriccioso. Chimie, sans qu'on ait besoin de le lui dire, était déjà parti s'acquitter de sa prochaine mission. Si le garçon de salle était à demi demeuré, alors Suzanne avait connu un tas de gens fonctionnant au quart ou au huitième de ses facultés.
« Où as-tu pris tout ça ?» demanda Alain.
« Au repos des voyageurs. Et ce n'est point moi qui l'ai pris, mais Chimie. »
Elle leur tendit les chapeaux.
« Vite, le temps presse !»
Cuthbert distribua les couvre-chefs. Roland et Alain s'étaient déjà affublés de leurs ponchos. Avec les chapeaux enfoncés jusqu'aux yeux, on les prendrait pour de simples vaqueros de l'aplomb dans toute la baronnie.
« Où va-t-on ? »
demanda Alain quand ils sortirent sur le porche. Ce côté-ci de la rue était toujours désert et plongé dans le noir. Les coups de feu n'avaient absolument pas attiré l'attention.
« Chez Hookie, pour commencer, »
répondit Suzanne. « C'est là que se trouvent vos chevaux. » Le petit groupe de quatre descendit la rue. Capi n'était plus là. Chimie avait emmené le mulet. Le cœur de Suzanne battit la chamade et en dépit de la sueur qui mouillait son front, elle avait froid. Qu'on qualifie ou non de meurtre ce qu'elle venait de faire, elle n'en avait pas moins mis un terme à deux existences ce soir et franchi une ligne qu'elle ne pourrait jamais refranchir dans l'autre sens. Elle l'avait fait pour Roland, pour celui qu'elle aimait. Et le simple fait de savoir qu'elle n'aurait point pu agir autrement lui offrait une légère consolation.
« Soyez donc heureux ensemble, perfide, assassin, grugeur. » Par les cendres, sois maudite.
Suzanne prit la main de Roland, et quand il la pressa, elle lui rendit sa pression. Alors, levant les yeux vers la lune du démon, dont la face cruelle, évacuant sa teinte colérique rouge-orangée, s'argentait, elle songea qu'en tirant sur le pauvre et scrupuleux Dave Hollis, elle avait payé son amour du prix le plus élevé qui soit, celui de son âme. Si Roland la quittait maintenant, la malédiction de sa tante serait accomplie, car ne subsisterait plus que des cendres.